le placard.
Bienvenue à toutes et à tous dans le placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer.
Ces dernières années, nous avons constaté une évolution des mœurs avec une affirmation d'un mouvement célébrant les personnes racisées en France. Les personnes influentes osent parler des discriminations auxquelles elles ont dû faire face du fait de leur couleur de peau, comme dans le livre « Noir n'est pas mon métier » par exemple, initié par Aïssa Meïga. De plus, le mot « queer », qui signifie originellement « bizarre »,« étrange » et qui était utilisé comme injure contre les personnes LGBTQ+, dans les années 90, mais réapproprié par la suite par la communauté, voit une émergence sur le sol français. En liant les thématiques de race, de sexualité et de genre, nous allons essayer aujourd'hui de répondre à la problématique intersectionnelle suivante. L'activisme queer et décolonial a-t-il un futur dans une France genrée qui dit ne pas voir les couleurs ?
Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Estelle Prudent. Activiste afroféministe queer, Estelle est une artiste engagée qui lutte pour la visibilisation des personnes noires et queer en France. Elle a travaillé et exposé sur une série de photographies qui s'appelle « Queer Superpower » et récemment, on la retrouve dans une installation de son exposition « Pense bête ». Alors, Méfi, est-ce qu'on peut commencer par toi pour cette table ronde des présentations ?
Donc moi c'est mes filles, je me présente du coup, voilà, je co-présente le podcast avec Eva et j'utilise les pronoms elle et un peu yel en ce moment aussi. Je m'identifie comme une personne queer et j'habite sur la côte sud de l'Angleterre à Brighton.
Moi c'est Eva, j'utilise les pronoms elle, je m'identifie comme lesbienne et j'habite sur la côte nord de l'Angleterre, sur Liverpool. À ton tour Estelle.
Ben, salut tout le monde, moi c'est Estelle. Du coup, mes pronoms sont elle et je m'identifie comme une personne queer racisée.
Merci.
Super, merci. Donc, comme on a fait notre petit tour de table, on va pouvoir commencer par les questions. Donc Estelle, depuis combien de temps es-tu dans le milieu militant ?
Très bonne question. J'évalue ça aux alentours de 10 ans, à peu près. Après, il y a des moments où c'était plus calme, on va dire, parce qu'il n'y avait pas toutes les sphères qui sont apparues à ce moment-là. Du coup, moi, au lieu de m'épuiser mentalement, je me suis reculée de certains milieux militants pour attendre les bonnes ouvertures et les bonnes perspectives, on va dire.
Qu'est-ce qui t'a poussé à changer comme ça ? Enfin, te recentrer sur d'autres lieux militants ?
Un truc tout bête, j'ai une anecdote. Je vivais sur Lyon parce que j'ai fait mes études là-bas. J'étais installée avec ma compagne et tout. Et à deux rues de là, avait le centre LGBT de Lyon. Donc, je sentais déjà la petite fibre là, qui me disait qu'il faut faire quelque chose, il faut y aller. J'y suis allée et en fait, j'ai été confrontée à une femme blanche qui, à l'entrée, m'a refusé l'accès du centre en m'expliquant que ce n'était pas pour les personnes comme moi. Donc, ça a été super violent parce que genre, je m'étais préparée pendant plusieurs jours. Je me disais, je vais rentrer, tout le monde va me voir. J'étais pas du tout outée au niveau de ma famille. Je faisais que des trucs de ouf, entre guillemets, à l'école, en tant que, sur le coup, lesbienne noire. Et là, je vais au centre LGBT, je sais pas, pour juste trouver de la richesse, pour partager. Et on me dit que c'est pas pour des gens comme moi, quoi.
Sous-entendu, personne racisée, quoi. Parce que les personnes racisées ne peuvent pas aussi être queer.
Non, c'est bien connu.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
D'accord.
Sympathique. Donc, j'espère que cette personne à Lyon n'y travaille plus.
Franchement, honnêtement, depuis cet incident, j'y suis pas retournée. Et tant mieux parce que, comme je disais, ça a permis à avoir d'autres structures qui sont pas dans le calendrier ni dans le truc officiel français. Et c'est pas plus mal en vrai.
Ouais, on comprend. Alors du coup, tu nous as un petit peu expliqué comment c'était à l'époque et comment c'est maintenant d'être militante racisée et queer en France.
C'est encore compliqué, on va pas se mentir. Mais heureusement qu'il y a des choses qui ont émergé, qui continuent ensuite et qui évoluent aussi sur d'autres formes. Il y a aussi des nouvelles têtes, on va dire. Il y a des nouveaux sujets, il y a d'autres points, on va dire, d'alimentation personnelle qui permettent aussi d'avancer. Et c'est super enthousiasmant dans le sens où avant, c'était vraiment la pénurie, quoi. Et après, comme pour toute chose, il y a aussi son lot de désillusions, de frustrations, de voilà. Enfin, je préfère être honnête. Tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, et faut se préparer, quoi.
Et donc, dans quel milieu exactement tu opères?
Milieu dans lequel j'opère, c'est assez fluctuant parce qu'il y a. Il peut y avoir des problématiques qui émergent et qui déroutent un peu, on va dire. Donc, je pense que je mène ma barque toute seule et en fonction des opportunités, des instincts aussi. Il y a des contacts qui se font, il y a des projets qui peuvent se réaliser. Mais j'ai du mal à rester, moi aussi, personnellement, fixe sur. Un collectif, j'ai besoin de voir la pluralité des choses, quoi.
Multidimensionnel, ça a du sens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet Queer Superpower et aussi Pense Bête?
Alors, Queer Superpower, en fait, c'est un peu une contraction d'un projet de photo-portrait, type classique. À ce moment-là, j'en avais vraiment besoin parce que toutes les représentations auxquelles moi j'essayais de m'identifier, étrangement, ça venait que des États-Unis avec son lot de possibles, de champs de possibles, alors qu'en France, c'est pas du tout ça. À ce moment-là, du moins, je ne vais pas dire non plus que c'est ouf maintenant, mais bon, c'est un peu mieux. Voilà.
Ça clash. Personne peut te contredire ici, t'inquiète, Estelle.
C'est bon, toutes mes conneries, ça va pour le moment. D'accord. Et en fait, le projet Queer Superpower, voilà, c'est une contraction de ce projet photographique et du projet Pense Bête. Le projet Pense Bête, c'est plus un projet d'écriture réactive, à savoir lorsqu'il m'arrivait certains types de situations, à savoir de la pédophilie, des agressions sexuelles, du racisme. J'avais tendance à le retranscrire sur des carnets de croquis que j'avais, surtout que j'en avais tout le temps à cette époque-là, de par mes études. Et ça me permettait en fait d'élaguer la toxicité que ça apportait dans mon espace vital. Et au fur et à mesure, en laissant traîner ces carnets chez moi, c'est vrai que mon cercle d'amis proches, c'était surtout des personnes queer racisées, parce que voilà, affinité, puis on n'était pas contredit non plus sur nos vécus. Donc, lorsqu'on voyait ces carnets de croquis, ça permettait aussi d'instaurer ce moment où on pouvait échanger sur des expériences qui pouvaient être compliquées à énoncer en temps normal, surtout les trucs sexuels, la pédophilie. Et il y a toujours ce truc très honteux, on va dire, dans certaines communautés, se permettre d'énoncer ces choses-là. Et là, pour le coup, ça instaurait un peu un cadre safe où chacun allait de son expérience, de son vécu. Et en questionnant, voilà, en questionnant ces questions de représentation, c'est pas du tout correct, mais bon, bref. En questionnant, voilà, ces nouvelles représentations des personnes queer racisées, j'ai voulu non pas juste figer le modèle dans une attitude, mais de se dire, là, c'est le moment de reprendre le pouvoir sur nos représentations. Donc, quel stratagème je vais mettre en place pour que ce soit pas juste une figure muette? Je me dis, tiens, il y a une plaque et un feutre, on va essayer de faire un truc, et c'est comme ça que ça a démarré.
Sympa, d'accord, quelque chose d'assez actif et qui fluctue. Et donc, du coup, il y a d'un côté le projet image, photo, représentation visuelle, et après, plutôt au niveau représentation et un peu comme un recueil des expériences vécues, en fait, donc créer un peu une histoire des personnes racisées et queer existantes en France. Donc, ouais, j'aime beaucoup la dualité. Et je voulais te poser une question, du coup. Quelles études tu as faites?
Alors, moi, j'ai fait un parcours aux Beaux-Arts de Lyon. J'étais diplômée de cette école-là avec déjà le projet Pense Bête. Ça a été super compliqué à amener, surtout ben, quand tu as le corps enseignant qui à cette époque-là était exclusivement composé de personnes. J'ai eu des retours du style, mais le racisme, ça existe en France?
Et dans
On
le
met en
top
rire,
5, ouais, dans le top 5
mais
des phrases reloues,
ouais.
nous appelons.
Voilà! Ok. L'ignorance.
Ouais.
Et je me demande, parce que cette question-là, donc les gens, ils attendent quoi qu'on leur dise, bah non, ça est... bah non, en fait, tu as raison, et donc ils diraient quoi? Ah oui, c'est vrai, ça n'existe pas. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre la derrière, enfin, la pensée arrière de la question. Je sais pas si ça se dit, mais.
Ouais.
Mais clairement, en fait, jusqu'à j'ai été obligée de penser à un stratagème qui physiquement allait les épuiser. Ça veut dire que j'ai sorti une édition de plus de, à ce moment-là, de 1500 dessins. À l'époque, j'en avais 22 000 dessins de ce type-là. J'ai fait une édition de 1500 dessins, donc un truc super stokos. Je leur ai mis dans les bras au moment de ma validation des acquis par rapport à un diplôme, et je les ai fait déambuler dans l'espace parce qu'il y avait d'autres trucs à voir. Et à la fin, ils étaient là, on n'en peut plus, on est fatigué, on veut déposer. Je dis, non, 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 vous allez garder ça dans vos mains bien comme il faut. Je dis, ben voilà, si vous n'avez pas la notion de l'épuisement mental que tout ça apporte en tant que dans la vie d'une personne queer racisée, ben physiquement, vous allez le ressentir. Voilà.
J'aime beaucoup.
Ouais, c'est très ouais, très
C'est très
intelligent.
conceptuel en fait et
Ouais.
ouais, très réfléchi.
Ouais. Mais je pense, ouais, c'est ça qui fait la différence, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer parce qu'ils ont jamais vécu ça, ils pourront jamais vivre la même expérience et du coup, ça n'existe pas et ils peuvent pas se mettre à la place d'une personne racisée. Donc, le fait que là, ça touche le physique, c'est magique quoi. Enfin, c'est une super bonne idée parce que ouais, au moins ils ont un ressenti quoi.
Ben, s'ils veulent pas l'entendre non plus, je me suis dit physiquement, ils étaient obligés de le ressentir par la lourdeur des dessins en fait, la lourdeur de tout ça, en sachant que c'était vraiment un 10% de tout ce que je pouvais produire à ce moment-là. Donc, puis ben, à la fin, pour sortir, vous êtes passé à ça, des félicitations, et puis à super mal me parler. Il y avait l'attente de. Il fallait que je sois la noire, hyper agressive, expressive, tout ça. Et puis, ben, non, en fait, je peux te parler très tranquillement, mais te faire comprendre les choses aussi, tu vois. Donc,
T'as cassé le stéréotype. Ouais,
C'est ça, c'est ça. Ben, du coup, pardon, vas-y, mes
je vais
filles.
juste poser une dernière question. Où est-ce qu'on peut trouver justement tes expositions du coup? Est-ce qu'on peut les voir quelque part?
La question de l'exposition, c'est un sujet très complexe à mettre en place. Je me souviens qu'en sortant de l'école, j'avais pas eu ouï dire qu'il y avait des résidences d'artistes. Tu sais, les gens avaient pris plus d'une année pour construire leur portfolio, voir quel établissement. Moi, je suis sortie de là en mode, bah, je vais aller travailler au McDo, et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai travaillé dans une chicha. Donc, quand ensuite j'ai voulu présenter mes projets ben, via des collectifs ou mes potes qui étaient sortis de l'école, me disaient, ouais, il y a un super truc à Berlin, viens. Et moi, j'envoyais mon dossier. Il y a une fois où j'avais été reçue, et au final, le truc était tellement sensible pour eux. En termes ben, d'assumer et puis ben, finalement de se questionner aussi sur est-ce que je suis potentiellement une personne raciste? Parce que ben, la personne qui te fait des blagues, qui regarde les dessins, qui te sort ces trucs, t'es là, ben, je prends note en fait, t'inquiète pas, je vais trop te les ressortir franchement. Je me souviens d'une exposition qui avait été, du moins ma participation avait été annulée à la dernière minute en m'expliquant qu'il y avait des fautes de syntaxe dans mes dessins.
Ouais,
Ridicule.
ridicule.
Donc en vrai, là où ça peut émerger, et ma première exposition, ça a été via le collectif Moissy. Parce que ben, il y avait déjà ces interrogations qui étaient mises en place, et de manière sereine aussi pour moi de montrer mes dessins, parce que j'ai eu des cas où ben, clairement j'ai été agressée. par rapport au dessin, ça a été vraiment l'une des plus belles expériences et mes premières expériences ont été faites dans des collectifs de ce type-là.
Est-ce que c'était possible d'être agressé par des personnels justement qui s'occupaient des établissements ou des collectifs, ouais?
Oui, ma première exposition, c'était pour la quinzaine des fiertés qui a été faite par le centre LGBT de Paris. C'était dans un bar sur Paris lesbien blanc. Donc moi, j'arrive, je rentre dans ce truc en mode super, ouais, je vais pouvoir faire quelque chose. Je rentre. Et là, t'as les responsables et enfin, celles qui possèdent le bar qui sont là en train de me regarder, genre.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu?
Genre, l'hétéro qui s'aventure. Parce que, voilà, je fais pas lesbienne pour certaines personnes. Donc, l'hétéro qui s'aventure, je les regarde, genre, bonjour. Et elles sont là, oui, il faut consommer, je sais pas quoi. Je fais, mais en fait, je suis pas du tout là pour ça. C'est moi, la personne qui doit venir exposer dans votre établissement, en fait. Donc, on parle pendant une heure, hein, on échange et tout. Et il y a l'une d'elles, elle me sort, mais du coup, c'est quand que la vraie photographe vient. Parce que je ne pouvais être que l'assistante, en fait.
Oh là là, mon Dieu.
Waouh.
Présenté au début, c'était moi, quoi.
C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça?
Ben, j'ai répondu avec une sacrée installation, parce que je me suis dit que c'est justement dans ces milieux-là qui se veulent ouverts, accueillants. Nous aussi, on comprend c'est quoi les discriminations. Mmh. C'est justement là où il fallait agir. Mmh. Je leur ai sorti plein de dessins et elles n'ont pas assumé. À la fin de la soirée, c'était « Mais on va nous casser le bar, tu te rends pas compte ?»
Oh, sérieux, quoi. Waouh, c'est j'en reste sans voix, tu vois. Pour le coup, c'est même pas genre, c'est genre on va nous casser le pauvre de nous, en fait. Nous sommes les victimes, ok.
Et bon. Clairement, il y a eu tellement de trucs où, par exemple, dans le centre LGBT de Paris, même quelques temps après, j'ai eu une exposition où j'ai eu tout le centre pour moi. Et je remercie infiniment, c'était une femme trans qui a fait en sorte que mon dossier soit accepté, Roxane, donc bisous Roxane. Et quand ils n'ont pas compris c'était quoi mon travail, donc quand je suis rentrée, que j'ai installé les dessins, ça en a démangé, mais tellement, et des gens qui sont à l'accueil, hein, qui sont au contact du public... si bien qu'à la fin, c'était ultra explosif et mes dessins ont été mis à la benne à ordures.
Oh là,
waouh.
C'est une réponse symbolique, tu vois. Mmh. Tu mets mon récit à la benne à ordures.
Est-ce que c'est quand même des événements très, très violents. Et est-ce que tu as réussi durant ces moments à te trouver des alliés, ou est-ce que des alliés sont apparus, ou est-ce que tout le monde t'a délaissé et est sorti de la pièce en mode « bon, elle se débrouille ».
Il y a des alliés à une certaine mesure, tant qu'il n'y a pas de répercussions pour ces personnes-là. On va prendre des alliés qui sont racisés pour venir me faire passer des messages, tu vois.
D'accord.
Au lieu de venir soit prendre ses responsabilités et s'excuser. Du coup, à ce moment-là, ce qui s'était proposé à moi, c'était de tout balancé sur Facebook et ça a fait un petit peu un remue-ménage, mais après en vrai ça change rien à la situation, quoi. Enfin, c'est encore l'idée de se dire que c'est à nous de créer les perspectives, les lieux, de pouvoir faire les choses pour nous et par nous, hein, au final.
Ouais.
On en revient toujours à ça.
C'est ça. Je suis vraiment étonnée, choquée et désolée pour toi, du coup, de l'expérience que tu as eue à Paris, au centre LGBT. C'est désolant, pour le coup. Tu as pu récupérer tes œuvres ou pas à la fin?
Non, j'ai laissé les dessins à la poubelle. Je les ai laissés à la poubelle. Enfin, moi, j'allais encore venir chercher mes dessins dans une
panne. Ouais, oui, j'avoue.
Non, j'ai récupéré mes photos, c'était le plus important parce que bon, c'était plus cher, on va dire. Mmh. Mais après, en somme, Je pars du principe, ce qui est fait, tu vois. Enfin, tu sais, en plus, c'est de dealer avec l'orchestration qu'ils souhaitent avoir avec toi. Si tu vas venir, on va te dire des choses, il va falloir acquiescer, alors que tu as juste envie de péter un plomb, en fait.
Ouais.
Et tu as le droit de péter un plomb, en fait.
Exactement. Mais il faut toujours montrer que t'es pas justement l'image de ce qu'ils veulent que tu sois. Donc du coup, tu es
Exactement.
obligé d'être tempéré et de pas péter un câble parce que sinon ça va leur prouver qu'ils ont raison, tu vois. C'est vraiment des situations qui sont vraiment délicates. Et donc de ce fait, et après Eva, je te laisse poser ta question, est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Donc est-ce qu'il y a un espace virtuel où on peut voir tes créations?
Alors j'ai un site internet. J'essaye parfois de faire des installations que je filme, donc on peut voir dans les stories Instagram, ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'idée de créer un musée virtuel avec les travaux d'autres artistes queer, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Mais après, bon, faute de temps et de compétences, on va dire, c'est pas le cas. Mais après, franchement, le mieux, c'est que ça soit en interaction directe ou quoi. Donc, qu'on m'invite à Miami, Los Angeles, LA, je suis disponible.
Bah, le message est passé, on ne sait jamais.
Bon, du coup, tu nous as un petit peu répondu concernant tes débuts en tant qu'artiste. Comment est-ce que. Quel a été, entre guillemets, le moment qui t'a. Enfin, est-ce que tu considères que tu as, entre guillemets, percé? Est-ce que tu. Il y a eu un moment où tu as, comment dire, explosé entre guillemets comparé à tes débuts qu'étudiante. Et qu'est-ce qui a provoqué ça en fait? Est-ce que ça a été un événement en particulier ou Ma question est un peu, j'essaie de trouver le mot. Est-ce que ma question a du sens déjà, Estelle?
Oui, c'est en tout cas, j'y projette. C'est vrai, quelque chose de vraiment particulier auquel je n'avais pas pensé depuis un moment. Donc, merci. Le moment, on va dire, charnière où je me dis que là, il a fallu vraiment y aller à fond. Donc moi, je faisais mes photos pour moi, je faisais mes dessins. J'avais très peu de perspectives d'exposition à ce moment-là. Et il est arrivé que dans un groupe d'amis proches, on a eu le suicide d'une amie. Et je me suis dit, c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Il faut faire quelque chose. Et quitte à ce que ça soit douloureux et ou compliqué. On va lancer la marche, on va y aller parce que c'est très nié en fait, j'ai l'impression, ces suicides dans nos communautés qui sont exacerbés par les discriminations de tout type. C'est très lourd, je ne juge pas les gens qui font leurs actes ou pas, mais si on pouvait donner aussi la perspective de d'autres choses, déjà de se dire qu'on peut en parler. De montrer d'autres réalités. Ben, il fallait y aller coûte que coûte, quoi. Je me dis, si ça pouvait juste aider une personne à se sentir mieux, peu importe, et j'en ai vécu des choses après ça, il fallait se lancer.
D'accord, ok. On
Merci pour
apprécie.
ton honnêteté, ouais, et
Voilà.
ta vulnérabilité.
Je pense que c'est important de faire preuve d'authenticité. Je veux dire, franchement, si je devais faire un retour pécunier sur tout ce que j'ai investi, le retour sur investissement, il n'y a pas. Mais la personne qui va dire, ouais, ça m'a fait du bien à ce moment-là, ça m'a permis de voir autre chose, ou j'ai eu l'expérience d'une enfant qui est venue me voir et il y avait cette photo de Doquita. Qui tient la plaque et qui dit que je suis une mère lesbienne, noire et que j'en suis fière, et qui vient me voir et qui me dit, oui, moi ça m'a fait du bien parce que ben ça m'a fait penser à ma maman. Et l'enfant n'avait pas d'autre visuel de ça. Enfin, je veux dire, j'avais gagné au change, quoi.
Ça n'a pas de valeur financière, ça, ouais.
Exactement.
Bien sûr. Bon, on va partir un petit peu, on va s'éloigner de ton parcours en tant que, qu'artiste pour parler un peu plus de ton parcours en tant que militante. Quel a été ton meilleur moment en tant que militante?
J'ai beaucoup réfléchi à cette question et en vrai, ça a été le moment un peu plus badass, moulte, caliente, épicé, quoi. Alors, le vrai bail, ce qui s'est passé? Je reçois une invitation très, très officielle pour devenir marraine de la marche des fiertés de Montpellier. Je réponds une ligne, ouais, ok, d'accord, je serai là. Et en fait, je bloque le truc parce que moi, j'avais une autre idée. C'était les 50 ans de Stonewall. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu bête, mais personne d'autre va vouloir faire ça. C'est-à-dire laisser sa place à une personne, une femme trans. Je me suis dit, je bloque ça et on va voir comment ça va se dérouler. Donc, on est là parce qu'il y avait d'autres personnes qui m'aidaient à mettre le projet sur pied, l'entourloup. Et finalement, à ce même moment-là, en fait, il y avait eu Julia qui avait été agressée sur la place République. Ça avait fait les médias pendant quelques temps. Et je me suis dit, ben, si elle accepte, tiens, pourquoi pas? Elle a accepté. Donc, on arrive, l'air de rien. Et puis, je fais au final, ben, non, finalement, ce ne sera pas moi. Ce sera une autre personne. Donc ça a été super cool parce que ben, je me suis dit c'était aussi de rendre justice à la création de la Pride, quoi, la création de la marche des fiertés. Il ne faut pas oublier d'où est-ce que ça vient. Et j'étais contente de participer à ça. Et après j'ai fait d'autres choses. La veille j'avais fait le Pink Block. Donc une autre Pride radicale. J'ai aussi participé au braquage de cette même Pride avec d'autres collectifs.
Badass.
J'ai pas invité, il y avait des gratuits, je me suis dit je vais faire quelque chose, t'as vu. Ce qui était bien aussi, c'est que ça avait dégagé un autre statut, à savoir que j'étais devenue du coup l'artiste invitée d'honneur de cette marche. Et j'espère que c'est quelque chose qui va rester parce que, ben, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour les artistes d'occasion, vous voyez, pour qu'ils soient mis en avant parce que ben, tout le monde ne peut pas ou n'arrive pas ou ne souhaite pas ou n'est pas investi dans une association, mais néanmoins il y a des choses qui existent à côté et j'espère que c'est un statut qui va pouvoir rester et continuer de marcher, quoi.
Super, merci honnêtement pour le partage et ouais, carrément badass, quoi. On approuve.
C'est ça. Donc, je vais enchaîner avec la prochaine question. Comment, enfin, depuis quand t'es-tu identifiée comme personne queer et comment s'est passé ton coming out?
Ça a toujours été, en fait. Je me suis souvenue, parce que quand j'ai lu les questions, j'ai eu des petits flashbacks comme ça qui me sont revenus.
Est-ce que t'as fait des dessins après ça?
Ouais. Mais j'étais plus dans l'action. Ça a toujours été... Après, c'est entremêlé de d'autres choses. J'ai le souvenir, par exemple, j'étais en primaire et on montait un spectacle de fin d'année qu'on devait montrer aux parents et tout. Et moi, je ne pouvais pas être... Il y avait des princesses... Enfin, il y avait un truc de princesse et des marins et une sorcière. OK, je ne sais plus c'est tiré de quoi. Et moi, je ne pouvais pas être une des princesses. Du coup, je m'étais mise chez les marins. Ça m'allait très, très bien. Au moment des répètes, j'avais des bisous, des trucs. C'est trop bien. Et je faisais aussi la sorcière. Je me mets à la place de ma mère. Genre, je viens voir mon enfant. Il a fait la sorcière, quoi. Il fait déjà la sorcière à la maison. Pardon. En fait, c'est toujours ce rôle où, comme tu n'es pas identifié à des attentes de canon, de beauté où ben, tu n'étais pas la fille qui va pouvoir faire ça. Bah, il y a toujours ce... il y avait toujours ce truc où j'étais toujours mis en différence. Donc moi, j'étais bien dans ma différence. Je l'ai gardée, je l'ai fait évoluer. Du coup, ça a toujours été en fait cette sensation d'être à part. Donc c'est quelque chose que j'ai entretenu. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé. C'est juste après coup, j'ai compris pourquoi ben, on faisait le distinguo et que ben, à ce moment-là, je n'étais pas perçue comme quelqu'un qui pouvait être ben, la princesse en fait. Et tant pis, tant mieux. Mais enfin, voilà.
D'accord, ok.
Enfin, je sais pas si je suis claire.
Si, mais tu
Ou...
es très très claire et
Ou tu...
très imagée aussi.
Oui,
Mais
du
du coup,
coup.
tu dirais que c'est à ce moment-là où tu as fait un peu ton coming out, tu dirais, ou c'est là où tu t'es aperçu que tu étais queer dans ta différence?
Si on pense à queer par rapport à, bah, à l'orientation sexuelle, ça a toujours été. Ça a toujours été, sauf que bah, je n'avais pas les représentations et je ne pouvais pas me l'expliquer. Je sais que je n'étais pas attirée par ce qu'on attendait à ce que je sois attirée, mais j'avais du mal à franchir le pas parce que bah, déjà, ce n'était pas un sujet à la maison. Ça n'existait pas. Du coup, bah, comment je faisais pour évoluer et m'épanouir, quoi? Et j'ai fait en sorte de prendre l'école la plus éloignée du domicile familial. Et j'étais arrivée à Lyon. Et là, bah, ça a été l'épanouissement total, quoi. Compliqué, mais épanoui quand même.
Est-ce que tu as senti le besoin de faire ton coming out ou est-ce que, ouais, explique-nous un petit peu, es-tu out ou pas
En étant parfaitement honnête, ça s'est enregistré dans quelque chose de très compliqué. Je voulais simplement exprimer à ma mère que j'étais heureuse parce que quelques mois auparavant, j'avais enfin pu mettre des mots sur ce qui m'était arrivé plus jeune, à savoir de la pédophilie. Elle était très très triste de l'apprendre parce que pour elle, elle n'avait pas vu certaines choses. Et moi, en fait, je voulais simplement lui dire que malgré tout ça, enfin, j'étais heureuse et que je m'épanouissais, mais d'une autre manière qu'elle s'y attendait pas, on va dire. J'ai eu une réaction, mais t'inquiète pas, je t'aime dans le premier temps. Au lendemain matin, j'avais le droit à de l'eau bénite sur la tête. C'était mitigé. C'était très, très mitigé. Après, j'ai eu ce discours-là avec une personne, une femme blanche, qui m'expliquait qu'elle n'avait pas à se justifier de qui elle était auprès de sa famille. Et c'est un truc tout bête, parce que je pense que c'est culturel, on ne nous apprend pas ça. Il y a des attentes, si tu dois répondre à ces attentes-là, de quoi tu vas te justifier? Non, tu sors du chemin, c'est pas bon. Et pour le coup, je me suis dit, bah, en fait, ouais, c'est pas con. Donc, je fais tout ce que je fais. On me voit ou pas à la télé, on va dire. Enfin, parce que c'est passé sur un truc entier. Donc, qui est très regardé par la famille. Donc, moi, je parle de trucs et tout. Mais au repas de famille qu'il y a eu après, bah, on m'a pas fait chier sur les questions du quand est-ce que tu présentes un gars, quand est-ce que tu te maries et tout. Je fais, bah, ça fait du bien, tout ça. Mais je suis pas. Je me suis pas mis là à parler devant tout le monde, genre aimez-moi, je suis lesbienne, faut pas que ça change nos rapports. Si ça change nos rapports, c'est pas de mon faire, c'est pas mon problème, tu vois. C'est que tu devais simplement t'écarter et en fait, il n'y a pas de mal à ce que les gens s'écartent de soi. Faut pas se mettre la pression à vouloir correspondre, à vouloir se justifier sur son humanité, à vouloir se justifier sur comment on s'épanouit, comment on est heureux et à attendre à ce que les gens acquiescent, valident ou quoi que ce soit. À un moment donné, faut arrêter de se mettre de la pression aussi, quoi.
D'accord, ça a du sens.
Ouais,
Merci.
et c'est très joliment dit aussi.
Ouais.
Quel endroit afro-queer, justement, pourrais-tu conseiller aux personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a des lieux, des endroits de prédilection?
Je pense que c'est compliqué et je vais pas m'aventurer avec retenue parce que il y a des choses qui peuvent se passer, il y a des interactions avec des gens qui peuvent être problématiques. Il y a des soirées qui existent, mais en tout état de cause, Il y a des collectifs qui sont super, qui mériteraient d'avoir vraiment un emplacement précis. Je pense notamment au collectif de queeratisés autonomes de Paris. Mais les lieux vraiment spécifiques à ça, franchement...
D'accord. Ouais, faut encore,
je vois pas. Et puis...
faut encore aller les chercher, entre guillemets, faire sa propre recherche en ligne. Il n'y a pas de... C'est encore un peu compliqué, c'est ça ?
Ouais, et puis ben si je réponds, moi c'est en répondant avec mes privilèges. Je vais pas avoir les mêmes difficultés qu'une personne trans. Donc moi, celui-là, ça va aller, ça va passer, mais pour cette personne-là, ça va être super compliqué. Donc si je dois dire des lieux queer racisés, ouais, c'est compliqué. Hein.
D'accord, ok.
Ouais, des lieux qui sont vraiment, réellement inclusifs. Mm-hmm. Il n'y en a pas vraiment, quoi. Pour le moment.
Ça me... Enfin, bon, je réagis un petit peu à ce que tu nous dis, du coup, mais je trouve ça aberrant de pas réussir à trouver, à offrir... C'est pas vraiment à trouver, parce qu'on ne devrait pas essayer, galérer de trouver quelque chose, mais à offrir, mm-hmm, justement, un lieu avec de l'inclusivité. Je comprends pas où le clash se fait, je comprends pas... Et je pense pas que tu vas pouvoir me répondre non plus, mais c'est aberrant quand même qu'on en soit toujours à ce niveau-là après tant d'années.
J'irais même plus loin. Il y a des associations qui se revendiquent queer, racisées dans toute la représentativité qu'elles souhaitent avoir, qui sont juste hyper nocifs et toxiques, quoi. Enfin, il y a des trucs que je vois, que j'entends. Je sais ce qui se passe derrière. C'est hardcore, c'est vraiment hardcore. Mais ça va être c'est comédien qu'on va mettre en avant.
Ouais, c'est ça, c'est la façade en fait. Ouais. Mais ouais, dans les backstage, c'est autre chose.
Mais est-ce que tu penses que c'est cette notion du pouvoir, à partir du moment où il y a une sorte de système entre guillemets qui se met en place, est-ce que cette accès au pouvoir détourne totalement toutes les bonnes intentions, en fait. Est-ce que c'est ça ?
Le pouvoir, l'argent, la notoriété, enfin, il y a tellement de choses. J'ai eu droit à tellement d'histoires. Moi, personne qui se présente en tant que présidente d'un truc, moi déjà, c'est... J'entends. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir cette hiérarchie, quoi. Je préfère les trucs où tout le monde a sa place égale à l'autre. Enfin, il y a tellement de trucs. Franchement, il y a des trucs, c'est tellement pourri. Et le truc, c'est ça fait tellement de mal à la communauté parce qu'il y a déjà peu de choses. Donc, quand vous voyez qu'il y a l'émergence d'une association, d'un collectif, on a envie d'y croire. On a envie de donner de la force parce qu'on en a besoin aussi. On se sent ou pas d'avoir l'énergie pour. On a envie de foncer. On a envie de... Et c'est pas que par intérêt de... Je vais faire une exposition. Je veux qu'on monte mes photos. Je veux qu'on monte mes dessins. Il y a d'autres choses, quoi. Il y a des gens qui sont dans la survie. Moi, il y a peu... Au mois de décembre, j'ai enfin retrouvé un logement. Pendant 2 ans, j'étais en errance par rapport à ça. Il y a d'autres choses, en fait. Et quand vous voyez que vous avez envie d'y croire, et vous retrouvez face à une pourriture, et c'est super dur, hein. C'est super violent.
C'est ce dont on manque un peu dans le côté d'être allié, c'est qu'il y a beaucoup de performances. Et c'est ce que tu dis un peu quand tu as dit qu'il y a certains collectifs à l'heure actuelle où la devanture est dorée et c'est attractif, mais qu'en fait, derrière, c'est un peu, c'est pas trop ça, quoi.
C'est exactement ça, et même dans le projet photographique Queer Super Power, c'est quelque chose qui m'a beaucoup testé humainement, c'est la notion de contrôle. Alors, on vous apprend par rapport à la photographie à contrôler la technicité, contrôler le modèle, contrôler la pose, enfin des tas de choses. Et moi, en fait, ça m'a remis sur une certaine forme d'humilité, dans le sens où justement ça reste ouvert. Il faut savoir aussi simplement en fait se remettre à sa place, questionner ses privilèges et de se dire si tu veux faire quelque chose pour la communauté, c'est pas juste pour une satisfaction personnelle en fait. Et ça m'a fait penser à combien de fois je me prends la tête avec d'autres photographes. C'est pour ça que j'étais vénère en fait avant que tu m'envoies le message sur Instagram. Non, mais il y a des trucs. Par exemple, j'ai eu un cas super violent en termes après d'agressivité, de harcèlement sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, les groupies étaient venues me voir, quoi. On va régler le compte. Genre, comment tu dis ça, quoi? Mais je crois que ça arrivait dans le cadre de la Pride radicale, où en tête de cortège, il y a donc les personnes migrantes. Et moi, je fais, enfin, c'est aussi une question d'éthique. Je fais super attention sur le rendu des photos, à savoir que je vais flouter les visages. Oh là là, quel cinéma m'est pas tombé dessus. Genre, non, 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 on s'est battu pour le non-floutage des visages par rapport aux policiers. Mais tu sais, des trucs complètement, mais ça n'a rien à voir.
Décollage.
Et donc, ces gens-là viennent t'éduquer parce qu'ils ont beaucoup de cas sur leur compte Instagram. On fait des études parce qu'on va penser que je n'ai pas fait d'études. Donc, moi, en fait, moi, ça me fait rire parce qu'on est déjà dans sous-estimé. Et que ça soit études ou pas, je fais les photos, je respecte une certaine éthique. Donc, j'ai le droit aussi de te remettre en question sur le fait que tu as déjà ce privilège de posséder un appareil photo, de faire des photos, tu viens, tu demandes pas le consentement des personnes, tu mets tout sur tes réseaux, mais il y a la vie des gens en fait. Les gens ont un vrai risque, il y a des enjeux là-dessus. Et ce qui m'a fait penser, c'est dans l'histoire de l'art par rapport à la notion du portrait, sur les questions du corps racisé. Vous aviez ce photographe blanc, cis, qui vient, qui prend les photos et qui placarde en fait toute sa structuration coloniale avec l'hyperoxydation du corps, enfin toute cette dimension raciste. Et on se retrouve encore à rejouer sur ces questions de Pride radical, ce truc où j'impose le visuel, j'impose le fait que je montre, mais enfin un peu plus d'humilité, quoi. Enfin. On va pas s'amuser à risquer la vie des gens pour avoir quelques likes sur les réseaux. Enfin, je trouve ça aberrant.
Non, l'humilité, ça, c'est un très beau message d'humilité, justement, de ça me rappelle.
Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'activisme en France?
Il y a des super podcasts à regarder. J'ai ça de un. C'est déjà prendre le temps pour soi, de se dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de faire. On n'est pas obligé pour se dire militant d'être 24 en manifestation, d'organiser des trucs, parce que l'espace mental peut être aussi sur d'autres sujets. Et c'est pas grave en somme, ça veut pas dire que tu es un mauvais militant ou que tu fais mal les choses, c'est tu vas à ton rythme aussi. En fonction de tes capacités et de prendre le temps de voir avec qui on est entouré. Parce que voilà, malheureusement, l'investissement, l'enthousiasme qu'on peut avoir, l'énergie, la volonté, c'est tellement cassant. Prendre le temps de voir qui nous entoure, ce qui est fait, des retours aussi. C'est pas grave de dire on a envie de s'impliquer, puis finalement, on va prendre le temps d'un petit recul. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver aussi dans la vie. Voilà quoi. C'est aussi honnête vis-à-vis de soi-même de se dire à ce moment-là, je peux pas ou j'y arrive pas. Et ça fait aussi du bien de l'entendre parce que la personne peut parler, même dans ces trucs-là où il y a de l'attente, où il y a cette énergie, cette effervescence, où voilà, on prend aussi le temps de mettre les choses sur l'ordre de l'humain.
Ouais.
Très
Ben
bien,
écoute,
ouais.
merci. Merci beaucoup pour ces bons conseils.
Du coup, je vais te poser la question finale. Donc, selon toi, et donc c'est la problématique de cet épisode, l'activisme queer et décolonial, pardon, a-t-il un futur dans une France genrée qui ne dit ne pas voir de couleur?
Ça m'a fait rire parce qu'il y a déjà quelques éléments de réponse dans cette question-là. Elle a toute sa place d'exister. Elle a toute sa place d'exister. Après, c'est compliqué d'exister dans ce monde-là, dans cet univers-là. Tu as souvent l'impression d'être un martien qui doit chercher un univers dans lequel il doit s'épanouir. Mais un truc, un univers complètement rassis et sec par la haine de l'autre, souvent. Et tu dis, mais comment on fait pour fleurir les choses, quoi? Il faut persévérer, ne serait-ce que même pour soi, en fait. Se dire, j'ai pu rencontrer une personne, on a pu échanger, on a pu rire. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'essence de la vie. Et tant pis si c'est pas dans les grandes, j'allais dire dans les grandes institutions, mais en vrai, est-ce qu'on a besoin d'eux? L'idée même de militer, c'est déjà pour ma part, hein, c'est parti d'une lutte personnelle. Moi, il y a des trucs, ça s'est vraiment cassé la gueule sur des affaires de violence sexuelle. C'est pas les grandes institutions qui m'ont aidé, au contraire. Mais du coup, moi, qu'est-ce que je fais de ça? Comment j'essaie de rebalancer le truc? Ne serait-ce pas plus pour moi qu'autre chose, parce que ce qui est fait est fait. Mais pour la personne qui a besoin d'aide, sur comment je peux l'entourer, l'aider ou être dans la prévention. Enfin, voilà quoi. Je sais pas si j'ai répondu.
Si, c'était très clair, très clair. Et honnêtement, merci beaucoup pour cet échange qui a été très riche et très authentique. Donc, merci beaucoup, franchement, Estelle. Et ce que je vais vous proposer, du coup, c'est de clôturer cet épisode. Donc, Eva, je t'en prie.
D'accord. Merci encore à toi, Estelle. Estelle Prudent sur les réseaux, pour nous avoir accordé du temps. Si vous souhaitez découvrir son travail, je vous invite à vous rendre sur son site internet, estelleprudent.com, ou sur Instagram avec le @estelle.prudent. Et prudent avec un T à la fin.
Et si vous avez apprécié cette écoute, on vous encourage à déposer un petit pouce bleu ou à laisser une étoile sur vos applis de podcast préférés afin d'améliorer son référencement.
Vous venez donc d'écouter Le Placard, émission préparée et présentée par Petite Eva et mes filles. Rendez-vous donc le mois prochain pour un nouvel épisode au Placard.